va, vous entendez bien. Donc, le feuillet et la violet, vous l'avez tous. Si vous ne l'avez pas, prenez-le. Donc, ce feuillet, vous pouvez le garder. Toutes les feuilles qu'il y a à l'intérieur, vous pouvez le garder. Vous pouvez faire des petites annotations. Et donc, vous servir de ce support comme souvenir du week-end. Ensuite, après, par rapport, donc vraiment au module de la découverte du bouddhisme, pour les gens qui veulent faire les lectures demandées, n'oubliez pas, si vous voulez sous forme papier, d'inscrire votre nom sur la feuille qui est sur la table à l'entrée. Donc, il y a une participation de 8 € qui est demandée pour le papier. Comment on va dire? C'est pas les lectures, on va pas vous faire payer le papier. Comment? Les photocopies, voilà, des différents petits enseignements qui sont donnés, donc Passe Santé, le Dayama, la Mazopa, la Mayashi, etc. Mais bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi les obtenir sous forme digitale en contactant Françoise Majesté à l'adresse qui est indiquée aussi sur la petite feuille. Ensuite, ce matin, j'ai oublié, au niveau de la bibliographie, de vous parler de ce petit livre. Voilà, je vous en ai parlé. Donc, livre de Sassantel Dayama, Voyage aux confins de l'esprit, aux éditions J'ai lu, au prix de 6,70 €. Voyage aux confins de l'esprit. Et donc, c'est en fait un livre qui reprend un petit peu un dialogue entre le Dayama et des rencontres entre le Dayama et des scientifiques, là essentiellement des chercheurs, de médecins, etc., plutôt du domaine de l'esprit, psychologique, etc., donc sur différents sujets, tels que l'esprit, tels que le rêve, et aussi, entre autres, la mort. Donc il y a toute une partie, surtout à la fin, qui est consacrée entre un petit peu les parallèles des recherches occidentales sur la mort, ce qu'est la mort, le point de vue bouddhiste, etc. Donc très intéressant. Entre autres, je ne sais pas si tu l'as vu, Jean-Marc, il y a des trucs très très bien. Par exemple, justement, le regard bouddhiste sur les expériences que font les gens, etc. À quoi ça pourrait correspondre. Donc je vous le recommande. Voilà. Donc comme je trouve que j'ai trop parlé. On va se taire, donc je vais me taire, vous aussi. Je suis dur là aujourd'hui, hein, cet après-midi. Petite méditation, donc on reprend la méditation sur le souffle qu'on avait fait ce matin. On se concentre sur le point à l'entrée des narines et on observe simplement les sensations qu'on y éprouve lors de l'inspiration et de l'expiration. Et on fait ça pendant 10 minutes. Par rapport à ce matin, ça va? Personne n'a de questions par rapport à la méditation? C'est bon? Vous n'êtes pas perdu? Alors c'est parti pour 10 minutes. Et de nouveau, on essaye de régénérer cette attitude bienveillante qui souhaite que tous les êtres puissent obtenir le bonheur, les causes du bonheur, et que tous, sans la moindre exception, puissions être libérés de la souffrance et des causes de la souffrance. Et on maintient cette attitude pendant 5 très bonnes minutes. Ok. Alors, ce matin, on avait vu que on commettait quatre erreurs fondamentales dans notre manière de percevoir les choses. Est-ce que quelqu'un se rappelle de ces quatre erreurs fondamentales? Au moins une, en réunissant peut-être. Perception du corps, qu'est-ce qu'on... Et comment on avait formulé ça, là? Donc, donc le premier, c'était considérer les choses impures comme étant pures. Donc, on avait pris, par exemple, par rapport à l'exemple du corps. Deuxième erreur fondamentale. Donc, Myriam nous dit prendre ce qui est impermanent comme étant permanent. Mais ça, c'était la troisième. Et c'est celle qui nous concerne. Donc, effectivement, considérer, en fait, quelque chose qui est de la nature de la souffrance comme étant du bonheur. Et finalement, le dernier, que vous avez dit, quelque chose qui n'existe pas en soi, donc, considérer qu'il existe, donc, en soi, c'est-à-dire, par exemple, de manière indépendante, autonome, intrinsèque, etc. Et on a vu on a mis l'emphase ce matin sur justement la troisième erreur, qui était de considérer quelque chose qui est impermanent comme étant permanent. On a vu que ça engendrait énormément de soucis pour nous, beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Et là, je pourrais en remettre une couche, tellement ça nous met dans la mouise totale. Okay. Et Valérie, vous nous aviez dit que c'était difficile d'être conscient de l'impermanence. Et d'un point de vue bouddhiste, on est dit oui, d'accord, c'est difficile. Pourquoi c'est difficile? Philippe, pourquoi c'est difficile d'être conscient de l'impermanence, de ce que nous sommes, de toute chose? C'est inverse à notre habitude. Tout simplement, c'est difficile parce qu'on ne s'y est pas habitué. Pas d'autre raison. À partir du moment où on s'habitue vraiment à quelque chose, automatiquement, ça devient facile. Pourquoi c'est facile de, par exemple, dire beaucoup de jurons, tout ça? Tout simplement parce qu'on est très habitué à le faire. Quelqu'un qui ne jure jamais, ça va être difficile pour lui de jurer. Juste une question d'habitude. Donc, on voit que cette conscience de l'impermanence est extrêmement importante. Elle peut nous soulager de beaucoup, beaucoup de maux, si on arrive à développer cette sagesse de l'impermanence. Comment faire? Tout simplement, régulièrement, revenir à cette conscience de l'impermanence. La réflexion en elle-même, elle est facile. On a vu qu'au niveau intellectuel, comprendre que mes composants corps et esprit sont impermanents, pas de souci. Comprendre que, au bout du compte, ce que je suis donc, c'est le résultat de corps et esprit, toutes les expériences que je fais sur cette base, etc., que tout ça c'est impermanent, très facile à comprendre, à l'accepter. Comprendre que tout ce qui m'entoure, qui est composé, est impermanent, aucune difficulté de compréhension. Ce qu'il nous reste à faire, donc maintenant, c'est à nous habituer à cette réalité. Donc maintenant, ce que je vous propose de faire, en fait, c'est une petite méditation qui permet d'ancrer toujours plus cette conscience, cette compréhension. Donc, petite méditation sur l'impermanence subtile, le changement constant, encore et encore, de ce que nous sommes. Donc, comment on va la faire? Tout simplement, on va penser à ce qu'on est physiquement, d'abord notre corps. Et penser comment notre corps est impermanent, tout simplement parce que je respire. Inspiration, expiration, évolution, changement. Mes poumons donc se gonflent, se dégonflent. En même temps, mon cœur, il bat. Parce que s'il battait pas, souci. Donc, tout simplement, en battant, le cœur, il exerce, donc il y a une force musculaire qui projette le sang, qui permet au sang de circuler. Donc, on peut faire un petit cours de biologie et essayer de penser donc par rapport à notre compréhension. Ben, la circulation du sang permet donc après, au niveau par exemple digestion de la nourriture, etc., que le glucose passe dans le sang, que le sang va redistribuer le glucose là où il en faut, etc. Donc plein de changements partout, au niveau chimique, biologique, etc. Une évolution constante, encore, au niveau physique. Plus on va regarder à un niveau, en fait, extrêmement petit, subtil, plus cette évolution constante va être vraiment flagrante. D'accord? Donc, tout simplement, on passe en revue ce qu'on est physiquement et on voit comment tout évolue. Il y a des cellules qui naissent, qui meurent. Ok? Donc, prendre conscience de tout ça. Prendre conscience, après, en fait, de l'impermanence de notre esprit. Qu'est-ce que c'est que l'esprit? Donc là, je vais vous interroger pas mal cet après-midi parce qu'il fait chaud. Et quand il fait chaud, surtout quand on est une attitude un peu passive, qu'est-ce qui se passe? Donc là, il y a ici, je crois, il y a des petits vasistas, des petits, comment on appelle ça? Des vasistas. Vous connaissez l'origine de vasistas? C'est véridique, hein. Vous regardez, vous prenez un dictionnaire, c'est dedans. Donc c'était en Alsace. Les Allemands, ils arrivaient, et puis ils levaient les yeux au plafond, du toit, dans les toitures, et puis il y avait la fenêtre, là, dans le toit, et puis ils disaient « Vasistas », c'est-à-dire « qu'est-ce que c'est ?» Donc, si vous ne me croyez pas, vous prenez un dictionnaire, un bon dictionnaire, Larousse, etc., et vous verrez que ça, ils disent que ça vient de là, effectivement. Donc, on peut les ouvrir, peut-être même la fenêtre, on peut ouvrir une fenêtre, si vous voulez, pour aérer l'air. Ah, on voit les habitués, merci Philippe. C'est lui qui l'a... Maurice Lange. Donc, ensuite, on va méditer sur l'impermanence de l'esprit. Donc, je ne perds pas mes esprits. Je vous avais posé une question. Qu'est-ce que l'esprit? Grande félicité. Donc ça, c'est l'esprit de clair-lumière qui est grande félicité. Mais l'esprit, en général, qu'est-ce que c'est? Une succession de moments de conscience, donc qui sont clairs et connaissants. Là, c'est la définition. Donc, une succession de moments de conscience. Et cette succession de moments de conscience, donc c'est un renouvellement juste d'expérience. Mais les expériences, elles évoluent. Comment on interprète l'expérience avec notre esprit, ça change. Donc, on a différentes pensées, etc., positives, négatives, neutres, etc. On regarde notre esprit, on voit comment, donc, il change encore et encore et encore. Donc, notre composante, corps et esprit, quelque chose qui est renouvelé encore et encore, qui évolue, qui se transforme, qui évolue. Nos expériences qu'on fait avec les gens changent encore et encore et encore et encore. Okay? Elles se transforment en dépendance d'une multitude de différents paramètres, composants. Donc prendre conscience de tout ça, prendre conscience donc de ce qu'on a été, tout simplement, ben, notre papa, notre maman, un jour, ils ont eu une étreinte amoureuse, torride, passionnelle, etc. Et ils ont créé un petit être, donc deux cellules, qui se rencontrent, qui se développent. On était un petit bébé, etc. Avec plein d'expériences, différentes expériences. On évolue. Donc un petit enfant, un adolescent, un adulte. Donc on voit juste le changement, tout simplement. Ben, il y a des périodes où on se repose, des périodes où on va travailler, etc. Donc pour être conscient de cette évolution, cette transformation constante de tout ce que nous sommes. Au niveau de nos, aussi, très important, de nos expériences, des gens qu'on rencontre, etc. Et simplement être conscient de cette évolution, de cette transformation. Et là, dans la méditation, c'est prendre conscience donc de l'impermanence de ce qu'on est, de tout ce qu'on vit, etc. Mais pas du tout de se remémorer un petit peu émotionnellement à différentes choses passées, etc. Non, c'est vraiment mettre l'emphase sur ce caractère impermanent de changement qui est renouvelé encore et encore. Ça marche ou pas? Ouais. Donc, allez, il y a de la matière à réflexion. Donc on va prendre 15 minutes. Donc prenez conscience de ce changement continuel de ce que nous sommes, au niveau physique, mental, après nos expériences, et après essayez de vous placer sur ce ressenti que tout ce que nous sommes, tout ce qui nous entoure, qui est composé, est impermanent, sur ce ressenti d'impermanence, d'évolution, de simple changement, encore et encore. D'accord? Donc d'abord, vous réfléchissez comment on est impermanent, pourquoi on est impermanent, quels sont ces aspects qui sont impermanents en nous, et après, essayez vraiment de se concentrer sur ce ressenti d'impermanence. C'est bon? Allez, c'est parti. Donc, un quart d'heure. Ok. Ah, personne s'est endormi. C'est bon. Est-ce que vous êtes tous arrivés à développer un niveau de conscience de l'impermanence, de votre impermanence? Ouais. Donc là, je vous demande pas est-ce que vous êtes arrivés à pendant 15 minutes à avoir une conscience parfaite de cette impermanence, mais ne serait-ce que donc quelques bribes d'arriver un petit peu à vous poser dessus, à réfléchir. Ouais. Ben voilà. Après, il faut juste entretenir cette conscience et y revenir régulièrement. Donc après, si par exemple, là en pratique, on a essayé de réfléchir pendant 15 minutes, 15 minutes au début, quand on n'est pas habitué à réfléchir, à méditer, de cette manière, c'est long. Donc tout simplement, pas obligé de pousser 15 minutes, on peut réduire un tout petit peu. José, je crois qu'il y a un tout petit peu des vibrations un peu, c'est limite au niveau du son pour moi. Non, baisser un tout petit peu. Donc, en fait, on peut réfléchir ne serait-ce que 5-10 minutes. Okay. Et si on fait ça chaque jour, en fait, on va développer cette nouvelle façon de regarder les choses, ce qu'on est, etc. Et elle va nous influencer de plus en plus. Et au bout du compte, dans notre vie de tous les jours, on va commencer, même pas quand on est en méditation, mais à regarder... tout simplement être conscient de cette impermanence. Dès qu'on fait ça, automatiquement, on va neutraliser ou réduire l'opposé, qui est donc quoi? L'ignorance, là, qui cristallise, qui dit que les choses sont permanentes. Okay. Donc, petit à petit, on inverse complètement la manière de fonctionner intérieurement, et ça va avoir des répercussions extrêmement importante sur ce qu'on est, ce qu'on vit, et au bout du compte, ça va être, donc, ce développement de cette sagesse, une cause de bonheur extrêmement stable. Peut-être qu'il va falloir développer un autre niveau de sagesse pour vraiment obtenir le pur bonheur parfait, mais déjà là, on va aller vers quelque chose d'extrêmement incroyable. Donc là, si je vous pose la question, est-ce que ça vous paraît irréalisable, là, ce que je suis en train de vous dire? Non? Ça a l'air plus que faisable, non? Donc après, ben, les cartes sont dans nos mains, c'est à nous de jouer. Et si on le fait vraiment très régulièrement, c'est sûr, clair et net, il va y avoir des résultats, des effets, beaucoup plus de bien-être pour nous-mêmes. Ça va avoir des implications à tous les niveaux, hein, même au niveau relationnel, etc. Ça va complètement transformer notre vie et on peut en développer une certitude tout simplement parce qu'il y a des êtres tout au long un petit peu de l'histoire humaine qui se sont entraînés à ces techniques, qui ont maîtrisé ces techniques, qui se sont transformés intérieurement et qui ont pu vraiment profiter du résultat de cette pratique, du développement, cette sagesse. On n'a qu'à reproduire ces exemples et on en tirera tous les bénéfices pour nous-mêmes. Donc voilà un petit peu pour ce qui est de l'impermanence. Subtil, on va regarder un aspect maintenant de l'impermanence, un petit peu plus grossier, la mort. Donc vous allez pouvoir vous appuyer pas mal sur la feuille qui s'appelle les étapes de la voie méditation 3. Là, j'ai l'impression d'être sur un ring, vous savez, puis donc là c'est le troisième round. Et donc on va commencer à réfléchir aux avantages qu'il y a à réfléchir à la mort et aux inconvénients de ne pas le faire. Donc ce sujet, dans le gros l'amrim, là, dans celui-là, c'est chapitre 8, Gisèle, page 113 à 128. Donc là, l'énoncé que je vais faire des avantages de ne pas réfléchir à la mort et des avantages justement d'y réfléchir sont légèrement différents que ce que vous avez sur votre feuille. Moi, je vais vous donner l'énoncé plus traditionnel, ces choses-là. Donc voyez ça comme un enrichissement, un complément. Surtout qu'en fait, il y a en fait des fois c'est exactement la même chose, mais sous une formulation un petit peu différente. Alors en fait, qu'est-ce qu'on perd à ne pas réfléchir à la mort? En Occident, on a une trouille noire de la mort. D'ailleurs, je me demande comment ça se fait que vous soyez aussi nombreux avec un tel titre, La mort et Renaissance. À mon avis, vous êtes venus pour la Renaissance, pour ça. Donc, la Renaissance, ça, j'ai jamais fait cette période artistique, donc c'était quelle époque en France, la Renaissance ? 16e siècle, donc on va parler un petit peu architecture, peinture après. Donc notre habitude, notre attitude normale, habituelle en Occident, souvent par rapport à la mort, c'est dire c'est pas bon du tout, la mort, c'est associé à énormément de souffrance, donc on veut pas y penser, on veut pas y réfléchir, etc. Mais ça résout absolument pas le problème. Et en fait, on peut développer une certaine conscience de la mort qui va être extrêmement bénéfique et extrêmement constructive. Et le premier défaut qui est mentionné dans le texte de ne pas réfléchir à la mort, ça va être que si on ne se souvient pas de la mort, on va pas se rappeler du dharma. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? À vos souhaits. En Suisse, ils disent santé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que si je me rappelle pas de la mort, je vais pas me rappeler du dharma. Qu'est-ce que c'est que le dharma? Le dharma, d'une manière générale, c'est l'enseignement du Bouddha. Mais quelle est la fonction de l'enseignement du Bouddha? Nous faire progresser vers quoi? Vers l'éveil. Mais donc, d'une certaine manière, vers le bonheur pour nous-mêmes, vers les qualités qui vont nous permettre d'amener les autres à un véritable pur bonheur. Le dharma, c'est ce qui va nous permettre de nous libérer de la souffrance et des causes de la souffrance. Donc là, si on reprend ce premier point, on nous dit, si je me rappelle pas de la mort, je vais pas me rappeler de quoi? De toutes les techniques pour créer les vraies causes du bonheur. Donc en gros, si je me rappelle pas de la mort, je vais pas me rappeler du dharma. Si je suis pas conscient de la mort, je vais pas me rappeler du dharma. Donc comment est-ce que je vais vivre ma vie? Dans l'ignorance, effectivement. Donc dans l'ignorance, l'attachement, l'aversion, l'orgueil, la jalousie qui me pousse à agir de manière contaminée, parfois, heureusement, de manière vertueuse, très souvent de manière négative. Donc je vais toujours perpétuer ce cycle de fonctionnement qui est cause de souffrance. Okay? Donc là, en fait, en contrepartie, on nous dit, si on se rappelait de la mort, peut-être qu'on se donnerait les moyens de se rappeler vraiment de la solution à notre problème, à la problématique. Le deuxième point qui est mentionné dans les textes, c'est qu'ils disent, même en fait, si on se rappelle du dharma, si on pense pas à la mort, en fait, on va juste s'en rappeler. Non. On va s'en rappeler, mais on va pas le mettre en pratique. Donc, aucune utilité. Ça va être juste, par exemple, une compréhension intellectuelle, mais qu'on laisse sur l'étagère et qu'on n'utilise pas, donc pour vraiment aller vers quelque chose de toujours plus beau pour nous-mêmes. Et après, le troisième point qui nous dit, c'est même à la rigueur, donc si on réfléchit pas à la mort, même si on se rappelle du dharma, même si on le pratique, on va très certainement le pratiquer avec des intérêts, juste une préoccupation pour cette vie-ci, avec une vue en fait à très court terme. Et dans les textes, on nous dit donc on va pas pratiquer le dharma purement, et ils vont nous dire que notre pratique va être imprégnée ou polluée par ce qu'on appelle les 8 dharmas mondaines. Donc Jean-Marc, tu fais oui. Les 8 dharmas mondaines. Mais qu'est-ce que c'est qu'alors ces 8 dharmas mondaines? Eh, moi j'ai oublié. Aide-moi, s'il te plaît. Donc les 8 dharmas mondaines, c'est des attitudes telle que, par exemple, donc vraiment une attitude au niveau temporel extrêmement réduite, qui est juste préoccupée de ici et maintenant, cette vie-ci, et qui va se réjouir quand il y a des gains, quand on obtient quelque chose, okay, qui va être, donc là, au niveau matériel, qui va être donc malheureuse, mal, quand on perd quelque chose. C'est des attitudes qui vont être extrêmement donc heureuses par rapport à un bien-être juste temporaire, extrêmement malheureux quand il y a de la souffrance, des difficultés, qui va être extrêmement heureuse quand on est loué, très mal quand on est critiqué, qui vont être extrêmement donc heureuses quand on a une très bonne réputation, qu'on est connu, et par contre, qui est très malheureux quand c'est l'inverse. Et souvent, peut-être au début en Occident, quand on s'intéresse au dharma, c'est pas forcément quelque chose qui va peut-être nous concerner. Quoique, peut-être assez rapidement, par exemple, on va dire, tiens, je vais aller faire une retraite, mais dans notre tête, okay, on est là, on se dit, ah ouais, comme ça, je vais pouvoir épater les copains, etc. Ou ils vont considérer quand même, ah ouais, non, je suis un bon pratiquant. Et la véritable motivation de la pratique, ça va pas être donc de considérer, il y a vraiment une problématique, et je vais essayer d'apporter des résultats. On peut même étudier, par exemple, le dharma, développer une bonne compréhension, et puis, par exemple, donc, on en parlait ce matin avec Romain, on pourrait par exemple développer de l'orgueil par rapport à notre connaissance, être extrêmement fier, orgueilleux de ça, et vouloir utiliser en fait notre compréhension et notre connaissance pour quoi faire, pour épater la galerie. Okay, donc là, on a tout faux. Au niveau par exemple monastique, il y a donc les moines, parfois ils sont appelés à faire des rituels. Et donc d'une certaine manière, ces rituels, c'est la pratique. Quelle est la motivation sous-jacente pour faire ces pratiques? Est-ce que c'est vraiment pour aider les autres? Vraiment pour se transformer soi-même? Ou généralement, donc c'était coutumier au Tibet, ou en Inde, ou etc., quand on demande de faire ces rituels, de présenter des offrandes. Donc est-ce que c'est vraiment pour aider les gens, ou est-ce qu'on on attend les offrandes derrière? Puis que si les offrandes sont pas très conséquentes, t'expédier le rituel vite fait bien fait là, hop. Donc en fait, au début, très souvent, quand on est attiré vers le dharma, c'est parce que vraiment on considère effectivement qu'il y a une problématique. On essaye de trouver des réponses. Mais si donc on continue dans cette voie, là il y a un danger à la longue qui peut apparaître, c'est que notre motivation va s'effilocher, notre motivation pure va s'effilocher, elle va être empreinte, elle va être contaminée par des attitudes beaucoup moins belles. D'accord? Et tout simplement parce que dans notre manière d'être, d'une manière générale, on n'est pas forcément tout beau. Donc quand je parle en tout cas pour, je ne veux pas me prononcer pour vous, mais pour moi, il n'y a pas que des qualités, il y a même très peu de qualités et beaucoup de défauts. Voire essentiellement que des défauts et puis très peu de qualité. Donc même après dans ma pratique, okay, au début je peux avoir vraiment une belle attitude par rapport à la pratique, mais très rapidement je risque petit à petit de me faire rattraper par des modes de fonctionnement par rapport à des choses mondaines qui vont venir polluer ma recherche intérieure. Donc c'est assez important justement de s'assurer d'avoir une bonne motivation au niveau de notre pratique. Comment on fait? Ce souvenir de la mort peut donc faire qu'on se rappelle de la pratique. Se rappeler de la mort peut faire que on va pratiquer. Se rappeler de la mort peut faire qu'on va pratiquer purement. Qu'on va toujours renouveler une motivation donc extrêmement pure par rapport à notre pratique. Sixième inconvénient de pas se rappeler de la mort, c'est que bah, tout simplement, ouais, je pratique, parce que je me rappelle du dharma, je pratique purement, mais bon, une fois tous les 36 du mois, quoi. Parce qu'il y a plein d'autres choses importantes à faire. Et la conscience de la mort, en fait, va peut-être un petit peu me permettre de remettre les points sur les i, et de voir qu'est-ce qui est vraiment important de ce qui ne l'est pas. Ça va peut-être me permettre de redéfinir les priorités que j'ai dans la vie. Et je pense que, donc on peut commencer à essayer de l'aborder maintenant, qu'une très belle attitude de vie avant de faire quelque chose, s'engager dans différentes activités, okay, différents projets, etc. C'est de se placer en fait pas là, ici et maintenant. Ok, je vais débuter ce projet. C'est en fait d'avoir un regard, de prendre beaucoup d'espace par rapport à ce qu'on est, et presque de regarder la finalité de ce qu'on va être dans cette vie-ci. Et de s'interroger, avec ce regard par exemple, au moment où on va mourir. S'interroger, est-ce que c'est vraiment une attitude juste? Est-ce que c'est vraiment une activité qui est censée entreprendre, qui est juste d'entreprendre? est-ce que ce projet, cette direction que je donne à ma vie, elle est vraiment juste? En prenant ce regard différent de la fin de la vie, là, peut-être, on va voir, est-ce que notre, donc, attitude de vie ou etc., elle est futile ou elle est vraiment juste? D'accord? Donc ça, je pense que ça peut être un peu un très très bon examen. Donc la conscience de la mort peut vraiment, en fait, orienter notre vie d'une manière très très spécifique et donner, en fait, aussi une très grande vigueur, une très grande force dans les choix, dans les décisions qu'on va avoir à faire par rapport à cette vie. D'accord? Dans les textes, ils continuent et ils disent, ben, en fait, si on se rappelle pas de la mort, on va s'éloigner de plus en plus du vrai pur bonheur. Donc, dans les textes, on nous dit de la libération. Pourquoi? Pourquoi ils disent ça? Vous avez l'air inspiré, là. Hein? Donc, Olivier, comme ta réponse est tout à fait juste, tu vas prendre le micro et puis la répéter. Je suis feignant, moi, cet après-midi. J'économise mes forces.
Je dis, du coup, comme on ne va pas pratiquer, on va créer de plus en plus de karma négatif.
Donc,
par ignorance.
Effectivement, donc, par absence de cette conscience de la mort, on va tout simplement continuer dans ces mécanismes, okay, qui nous habituent et qui sont la source même du problème. Donc, on ne va pas avoir un petit peu ce qui va nous déclencher cette réflexion de s'interroger sur ce qu'on est, etc. Donc on va être dans le fonctionnement de l'ignorance, comme tu dis, d'attachement, d'aversion, d'orgueil, de jalousie, d'avarice, etc. Et on va rechercher en fait notre bonheur pour moi, ici et maintenant, avec une attitude extrêmement égoïste, en ayant très très peu de considération pour les autres, au bout du compte. À la rigueur, juste peut-être nos proches, et même des fois nos proches, pour obtenir ce qu'on veut, et pour être heureux nous, on est prêt à faire subir, des fois, des choses pas cool du tout à nos proches. D'accord? Et il faut bien voir que, là, encore une fois, donc c'est malheureusement trop souvent la manière de fonctionner dans laquelle on se trouve nous-mêmes trop souvent et malheureusement dans laquelle se trouvent beaucoup trop souvent tous les autres êtres. Regardez comment, par manque de recul, on en arrive à faire des choses complètement aberrantes à tous les niveaux, quels qu'ils soient. Parfois, ça nous paraît tellement évident. Je prends l'exemple de l'écologie. C'est très fort possible que beaucoup parmi vous, vous considériez que, effectivement, ben, l'écologie, qu'est-ce que c'est? C'est prendre soin de notre environnement. Si on prend pas soin de notre environnement, ça va avoir une incidence sur nous. Ça va dégrader notre lieu de vie. Qui c'est qui va en pâtir? Nous. Ouais. Donc là, on nous parle des changements climatiques. On est concerné par ces changements climatiques. Ça nous paraît une évidence de se dire il faut changer les choses. Mais regardez comment, en fait, trop souvent, ben, des personnes qui ont un petit peu les rênes des directions qu'on donne donc dans chaque pays sont pas tellement intéressées par ça. Alors que pourtant, pour nous, ça semble être une évidence. D'accord? Donc là, pareil, en fait, si on prend pas le recul, par exemple, en pensant à la mort, on va être dans un mode de fonctionnement et on va se dire oui, voilà, c'est ça. Alors que si on prenait un tout petit peu de recul, on verrait l'aberrance. On s'est dit ça. L'aberration, l'aberrance. C'est un nouveau mot, là. Faut qu'on contacte l'Académie française qui le mette dans le... L'aberration de ce mode de fonctionnement. Juste de relativiser un petit peu, de prendre un petit peu d'espace par cette habitude qu'on a en pensant à la mort, peut nous éviter de se retrouver dans cette situation. Donc si on ne se rappelle pas de la mort, ben, tout simplement, on peut toujours plus s'écarter de cette possibilité d'obtenir le vrai pur bonheur, la libération. Et le dernier désavantage qu'il y a à ne pas se rappeler la mort, c'est en fait, on nous dit quand on va mourir avec beaucoup de regrets, voire même l'expérience de la mort risque de ne pas être cool du tout. Voire franchement, alors vraiment pas agréable du tout, du tout, du tout. Donc vous inquiétez pas, au cours du week-end, on va voir ce qu'est la mort d'un point de vue bouddhiste et le processus par lequel on va passer, les différentes étapes. Alors ensuite, par contre, il y a 6 avantages de se rappeler de la mort. Et le premier, on nous dit, c'est nos actions vont devenir très bénéfique. Parce que tout simplement, par la compréhension de notre situation dans le samsara, donc là j'emploie un mot, j'aurais peut-être pas dû, parce que qu'est-ce que c'est que le samsara ? Ah, on en a déjà parlé. Là, Myriam, elle est là, elle est en train de sortir la définition. Joindre continuellement dû au karma, aux perturbations mentales. Donc non, c'est fausse réponse, je suis pas d'accord du tout. Le samsara, c'est le parfum de Guerlain. Ça, je l'adore, celle-là, je l'adore. Trop fort. Donc, en fait, on va comprendre en se rappelant de la mort que où est-ce qu'on se trouve ? Dans un cycle où il y a une continuité d'esprit. Malheureusement pour nous, sur la base de cette continuité d'esprit toute neutre, immaculée, très belle, qui est grande félicité, il y a cette ignorance, cet attachement, cette aversion, cet orgueil, qui en fait sont les énergies qui nous animent intérieurement, qui nous poussent à agir de manière contaminée, et au bout du compte, donc souffrance, pas de vrai pur bonheur. Et on est dans ce cycle qu'on renouvelle encore et encore et encore et encore. En se rappelant de la mort, donc qui fait partie de ce cycle, on va tourner notre esprit vers le dharma pour trouver la réponse. Après, ils nous disent même que notre pratique du dharma va devenir extrêmement puissante parce que on va développer un très fort intérêt pour justement aller rechercher ces réponses intérieures. Donc, on va avoir moins de désir juste d'aller chercher le plaisir ici et maintenant. Donc, automatiquement, on va commencer à pacifier, à neutraliser un petit peu ces modes de fonctionnement qui sont propulsés par le désir, l'attachement, etc. Donc, déjà, on va cette conscience de la mort va nous permettre de commencer à pacifier un petit peu notre esprit et donc à créer une certaine sérénité de l'esprit. Donc après, dans les textes, ils nous disent se rappeler de la mort, c'est important au début, au milieu et à la fin. Ça, j'adore ce genre de d'énoncé comme ça un petit peu. Ou des fois, il y a quand on étudiait petite parenthèse, quand on étudiait, il y avait des textes où il y avait des listes genre 51, 64, 108, etc. Et puis alors dans les commentaires, ils disaient pourquoi 108 ? Parce que moins ce serait pas assez et plus ce serait trop. Donc là, important au début, au milieu et à la fin. C'est important de se rappeler de la mort au début parce que justement, c'est ce qui va donc déclencher notre envie de pratiquer. Au milieu, c'est ce qui va continuer à nous donner l'intensité à la pratique, l'énergie pour continuer, perpétuer notre pratique. Et à la fin, pour justement, donc, complètement parachever ce qu'on avait entrepris. Donc là, on a déjà les 5 premiers avantages. Le dernier, c'est qu'on va mourir. Comment on va mourir ? Tout seul. On est tous crevés, et en plus, vous allez tous crever tout seul. Non, là, c'est l'avantage qu'il y a à réfléchir à la mort. On a vu que si on réfléchissait pas à la mort, ben, quand on mourait, donc, avec beaucoup de regrets, dans un très grand désespoir, etc. Là, on va mourir à l'opposé, sans regret, l'esprit tranquille. Il y a même, dans certains textes, on nous dit, les grands pratiquants, quand ils meurent, quelle est leur expérience? Une expérience merveilleuse, un bonheur, un bien-être qui est un bien-être qui serait bien supérieur à celui qu'on pourrait développer si, par exemple, vous imaginiez vous étiez parti à l'aventure là à dos de dromadaire, ensuite en pirogue, etc. pendant des mois dans la forêt amazonienne, en passant par l'Égypte, en faisant un détour par l'Irak, etc. Donc des aventures extrêmement riches, mais bon. Après, vous allez vous retrouver les êtres qui vous sont les plus chers, le bonheur que vous éprouvez en retrouvant un petit peu votre chez vous avec tous ces gens qui vous sont si chers, si proches. Eh bien, les très grands pratiquants, quand ils meurent, en fait, ils ont l'impression de retourner justement chez eux avec un bonheur incroyable. Donc là, déjà, premier point, en fait, tout simplement comparé à notre attitude occidentale de se dire « Ouh, la mort, je veux pas y penser », etc., ça résout absolument pas les problèmes. Et il y a des êtres qui apprennent à regarder pleinement, directement la mort en face, qui la reconnaissent complètement pour ce qu'elle est, et au bout du compte, ils voient que même dans la mort, il y a un potentiel extraordinaire, et quand la mort arrive, ils l'embrassent pleinement, avec une sérénité, une joie intérieure parfaite. Donc la mort n'est pas du tout forcément un souci. Si on s'y prépare pas, si on se prépare pas à comprendre vraiment ce qu'on est, etc., si on se laisse aller à nos habitudes passées, là, ça va être très très difficile. Donc quel est en fait un petit peu le type de conscience de la mort, ou dans certains textes ils vont dire le type de peur de la mort qu'on va essayer de développer. Vous voyez là, la tonalité de cet après-midi a un peu changé par rapport à ce matin. La peur de pas être prêt. Donc en fait, quand on réfléchit à la mort, c'est pour en fait bien se resituer dans la réalité qu'est la nôtre. Quelle est notre réalité ? Et on ne dure pas. Donc effectivement, on est, donc on va mourir. On est pour mourir. Non, on est, donc on meurt. Hein, mais, parce qu'on pourrait dire, on, de chez les bouddhistes, ils pourraient dire aussi, donc on meurt pour naître aussi. C'est plus joyeux comme ça, sous cette forme-là, non ? Quelle est notre situation ? On l'a vu ce matin. Regardez ce matin comment vous étiez enthousiaste. Allez, on repart. Quelle est notre situation ? Niveau le plus subtil. Allez, Olivier, vas-y. Remets le disque en route. Donc, sous l'aspect le plus subtil, on a un esprit le plus subtil. Claire-lumière, qui donc l'essence de ce qu'on est n'est absolument pas problématique. C'est un potentiel incroyable, illimité. Un potentiel de pur vrai bonheur. Malheureusement, donc, on n'est pas capable d'être conscient de cette réalité. Malheureusement, il y a des mécanismes qui vont s'élever de cette essence de ce que nous sommes, qui vont à des niveaux plus grossiers, qui vont venir voiler cette réalité. Ignorance, attachement, aversion, toutes les perturbations mentales, ok? Toutes les actions contaminées qui fait que on est projeté inconsciemment par un mécanisme bien réel intérieur, mais inconsciemment, il y a un mécanisme qu'on ne maîtrise pas, on est projeté dans des situations. Donc même si on aspire naturellement au bonheur, est-ce qu'on a le bonheur? Non. On a donc un état qui n'est pas du vrai pur bonheur, un état malheureusement où il y a beaucoup de souffrance. Donc là, on peut aussi un petit peu penser à cette réalité. Dans notre vie de tous les jours, il y a des moments qui sont pas roses. Il y a des moments qui sont roses, mais est-ce que c'est du vrai pur bonheur? Non. Tant qu'on sera dans ces modes de fonctionnement de perturbations mentales, d'actions contaminées par ces perturbations mentales, on aura des composants qui feront que, est-ce qu'on pourra expérimenter le vrai pur bonheur? Non. D'accord? Donc voilà notre réalité. Et tout simplement, donc là, ici et maintenant, on a une vie humaine. Mais qu'est-ce qui va se passer? Donc avant, là, Gisèle nous parle d'autre vie. Mais avant l'autre vie, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, vous considériez comme acquis que je sois là aujourd'hui, non? Donc je vous disais, ben, ça n'avait pas été si sûr. On a eu une petite expérience avec Pedro, donc un résident d'ici, qui nous a fait dire, bon ben, des fois on ne sait pas. Parce que donc je suis arrivé à l'autre... l'autoroute, non. L'aéroport de Blagnac, il est venu me chercher en voiture, on a pris l'autoroute, on est sorti de l'autoroute, on est venu donc en direction de Lavaur, et à un moment sur la route, donc pas loin du tout d'ici, donc on parlait, mais heureusement on n'était pas trop complètement distrait, et on regardait la route un peu plus loin. Et on a vu des semi-remorques arriver en face, puis des gens qui en avaient marre d'être derrière le semi-remorque, donc qu'est-ce qu'ils font? Il déboîte, il double. Donc on a vu quelqu'un qui déboîtait, qui doublait. Moi, je regardais ça, j'ai estimé sa vitesse, notre vitesse, la distance du camion, de lui, de nous. J'ai dit, oh, c'est un peu juste. Donc j'ai regardé Pedro, je lui ai dit, ralentis. Donc il ralentit. Puis, ouais, effectivement, c'était un peu juste. Donc il se rabat. Derrière, une autre voiture qui avait déjà déboîté. Et là, je peux vous dire que ça le faisait absolument pas du tout. Donc là, j'ai regardé Pedro, je lui dis arrête-toi. Donc sur une départementale où les gens roulent à 90, eux, ils roulaient plus, à 120, vous imaginez, on s'est arrêté. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passait? Un carton, donc deux voitures qui se percutent comme ça, pleine face. Je vais vous dire, même là, après, il nous restait encore une autre alternative. Hein. Je vais vous dire ce qui peut être intéressante quand même. C'est que si vous vous arrêtez et que vous prenez une voiture en pleine face, généralement, c'est plutôt plus mauvais pour vous que pour l'autre. Donc à ce moment-là, il vaut mieux même partir dans le fossé. Mais donc là, tout simplement, et ça arrive très très souvent à beaucoup de gens, accident, Et puis c'était la plus grande chance, tout simplement, la morgue. Ok, la mort. Donc là, c'est un accident bien violent, brutal, etc. Mais il y a d'autres épisodes pour vous dire, ben oui, on est, donc on va mourir. Il y a une fois pour me rappeler cette réalité. Donc quand j'étais moine, pendant une période, j'habitais en Italie et j'étudiais là-bas. Et donc on allait accueillir Sa Sainteté le Dalai Lama pour des enseignements. Donc généralement quand Sa Sainteté arrive quelque part, donc on essaye de l'accueillir au mieux, donc, entre autres grand ménage. Et j'étais chargé avec un copain de m'occuper un petit peu du jardin. Et les gens avaient coupé énormément de broussailles et avaient empilé toutes les broussailles. Et il fallait qu'on donc brûle les broussailles. Et je dis à mon copain, bon ben c'était un jour où il pleuvait des cordes. Je lui dis bon ben t'allumes tout ça et puis on fait brûler tout ça et puis voilà. Et puis donc il allait chercher le jerrycan, il a cherché un petit gobelet de rien du tout là, puis il mettait un tout petit gobelet de rien du tout, puis il le jetait sur les broussailles et puis après il essayait d'allumer le feu. Donc avec des cordes etc, mettre ça d'essence dessus, ça le faisait pas. Donc j'arrive un peu plus tard et toujours pas de feu. Je dis mais qu'est-ce que tu fais là? Je dis ben j'ai essayé, ça fait 3 fois que j'ai essayé là, j'arrive pas à l'allumer. Puis je regarde, je me dis mais attends, tu rigoles ou quoi là? Là il faut mettre toute l'essence qu'il y a et puis de loin après, on fait une torche, ok, puis on jette la torche, et puis voilà, ça, c'est tout bon. Mais là, sinon, on va pas y arriver, parce que vu comment il pleut. Donc, il me regarde, il me dit, ouais, bon, d'accord. Puis il me dit, ça te dérange pas de mettre l'essence sur le, sur toutes les broussailles? Je lui dis, non. Puis donc, on avait regardé, là où il avait essayé d'allumer, c'était tout éteint, pour plus de sécurité. Je suis allé à l'autre bout, pour vous dire, aller à l'autre bout, c'était quand même à peut-être une dizaine de mètres, de là. Et puis c'était pas un petit tas de broussailles, c'était vraiment un truc énorme. Donc je monte sur le tas de broussailles, et puis, je suis là avec mon jerrycan. Puis, d'un seul coup, il y a eu une explosion. Donc ils étaient en train de refaire la villetta où ils allaient accueillir le Dalai Lama, donc ils pensaient que c'était à la carrière, qui était juste en face, où ils faisaient, donc, dynamiter un peu la montagne pour récupérer un peu le schiste, etc., pour faire du plâtre. Mais non, c'était pas du tout en face, c'était moi. Donc tout simplement, les vapeurs qui sont propagées, qui sont allées, puis il y avait une petite étincelle encore quelque part, et puis pas une petite braise, et puis ça a explosé. Donc on ne sait jamais, en fait, on est là et on pense que tout va bien, ok, et d'un seul coup, poum, on est en voiture. Un autre petit exemple qui est apparemment j'ai pas trop le karma encore pour mourir parce que je mets des conditions plutôt favorables pour ça, mais il y a juste pas longtemps du tout là en Suisse, donc je sortais de la chambre et il avait neigé pour aller dans le centre pour donner un cours là-bas, et puis il avait neigé, puis c'était une neige mêlée, ce qu'on appelle la neige mêlée, donc assez lourde avec de l'eau etc dedans, et puis donc là en dessous la terre était vraiment imbibée bien d'eau, et puis je suis arrivé, j'ai dérapé sur la terre, mais juste derrière en fait il y avait là une chape en béton, donc on peut tomber comme ça très très lourdement et puis la tête elle peut taper puis c'est fini. Okay. Même il y a des fois, je connais pas bien l'histoire, mais il paraît que l'année dernière, Chantal a raconté ça il y a pas longtemps, la nonne Chantal, peut-être le week-end dernier, elle racontait l'histoire d'une étudiante qui a failli mourir avec une petite miette de pain. Donc je connais pas le fin fond de l'histoire, mais apparemment, elle a avalé de la miette de pain, peut-être mauvais trou ou quelque chose, etc. Elle a failli y passer. D'accord. Donc la réalité, c'est tout simple. On est, mais on va mourir. Okay? Et qu'est-ce qui va se passer si on meurt? Donc d'un point de vue bouddhiste, est-ce que c'est la fin? Non. Je vous dis d'une certaine manière, si en réalité c'était la fin, ce serait beaucoup plus simple. On aurait moins de soucis à se faire, au bout du compte. Hein? Puisque vous savez, le problème il est réglé, quoi. C'est la fin, il n'y a plus rien. Mais d'un point de vue bouddhiste, c'est justement pas si simple. On a vu donc au premier module que qu'est-ce qu'on est? On est entre autres un être, donc on a un esprit, il y a une continuité d'esprit. Est-ce que l'esprit a un début? Est-ce que la continuité de cet esprit a un début? Non. Est-ce qu'il a une fin? Non. Donc il y a juste une succession d'expériences. Malheureusement pour nous, dans quel fonctionnement on est? On est dans une succession de moments de conscience qui, généralement, sont associés à l'ignorance. à l'attachement, à l'aversion, etc. aux actions contaminées, donc à la souffrance. Donc d'un point de vue bouddhiste, on meurt, qu'est-ce qui se passe après ? La continuité, est-ce qu'elle est interrompue ? Non, elle continue. Si on n'a pas résolu ce problème de continuité, d'ignorance, d'attachement, d'aversion, qu'est-ce qui se passe ? On continue dans ce cycle d'expérience. Et ce cycle d'expérience, est-ce que c'est du vrai pur bonheur ? Non. Donc, en fait, tout simplement, quand on va mourir, si on ne change pas les donnes du problème, on va continuer, comme en 40. Donc, d'une certaine manière, la souffrance va continuer. Donc là, la réflexion sur la mort, la peur, entre guillemets, qu'on va essayer de générer, quel type particulier de conscience de la mort on va générer, c'est que ici et maintenant, ce matin, j'ai commencé à parler de quoi ? Je me suis étalé sur quoi beaucoup ? La cause de la souffrance ? Non, avant que ça. Je vous ai demandé si vous étiez déprimé, vous m'aviez dit non. Sur la précieuse renaissance humaine, sur le potentiel incroyable qu'on a. On a un potentiel incroyable, on a une opportunité incroyable. Si on ne l'utilise pas, qu'est-ce qui va se passer ? On va perdre cette opportunité. Puisqu'on ne l'a pas utilisé, ça veut dire qu'on va avoir été dans des fonctionnements qui sont la cause même de la souffrance, du problème. Donc on va encore et encore et encore et encore galérer. Ce matin, j'ai fait un parallèle entre un animal et nous, en tant qu'être humain, avec des intérêts bien particuliers. Quelle différence il y avait entre nous et l'animal ? On avait une capacité, effectivement, de réflexion, etc. On avait une liberté d'une certaine manière. Les conditions qui font que ce que nous sommes nous donnent la possibilité de réfléchir, nous donnent la possibilité de faire des choix, la possibilité de donner des directions très précises qui vont avoir des conséquences, des résultats bien précis. Est-ce que l'animal l'a ? Non. On meurt. Qu'est-ce qu'on va devenir ? Si on ne prend pas les choses en main, ce qu'on va devenir, c'est tout simplement le résultat de ce qui a été généré encore et encore. Très souvent, est-ce qu'on crée des causes pour justement obtenir un avenir plutôt favorable ? Tout simplement, prenez la population française. On va se limiter à la population française. Est-ce que si on a un examen assez précis, on va pouvoir dire que la plus grande majorité des Français vivent dans une pure éthique telle qu'elle est présentée dans le bouddhisme. Donc là, on continue l'analyse. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quelles sont les causes pour avoir justement un type de renaissance avec des conditions favorables pour pouvoir se développer intérieurement ? Quelle est la base même pour avoir un tel type de renaissance ? L'éthique. Là, vous êtes en train de me dire que d'après un examen rapide, là, comme ça, une estimation rapide, la majorité des Français, on n'a pas cette éthique. Donc, on ne crée pas les causes pour avoir une telle renaissance. On ne crée pas les causes pour avoir les conditions pour pouvoir, donc, avoir cette opportunité de transformation intérieure. C'est, si on n'a pas d'éthique, maintenant, si on ne prend pas cette opportunité qui nous est donnée, ça veut dire donc qu'on est en train de créer des causes pour ne pas se retrouver dans cette situation qu'est la nôtre maintenant. Dans des situations donc, où on n'aura plus de liberté, dans des situations où on va expérimenter énormément, très certainement, de souffrance, et de surcroît, dans cette nouvelle expérience de vie, qu'est-ce qu'on va faire ? Comment on va réagir par rapport à ces expériences ? Quelles vont être nos attitudes ? Nos actions par rapport à ces expériences, la plupart du temps. Là, j'ai l'impression que je vous mets un peu la pression. Genre, je suis un félin, un lion. Donc, la vie sauvage, elle est dure quand même. Hein. C'est pas évident. Pas mal de souffrance. Un lion, par rapport à tout ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il chasse. Et quand il chasse, ça veut dire quoi ? Qui tue ? Et quand il tue, qu'est-ce que c'est ? C'est de l'éthique ou c'est pas de l'éthique ? C'est un karma négatif. Qu'est-ce que ça veut dire, un karma négatif ? ils recréent des causes pour se retrouver dans une situation de souffrance. Et très souvent, malheureusement, dans le cycle dans lequel on se trouve, on se retrouve dans des situations où ce qu'on est fait que automatiquement, en fait, on va réaccumuler de nouveau encore des causes pour se retrouver dans une galère pas possible. D'une certaine manière, les durées de temps qu'on devrait expérimenter la souffrance, les causes nouvelles qui seraient donc créées, causes de souffrance, seraient encore et encore générées, qui feront que donc la durée de souffrance, l'intensité de souffrance, etc., serait énorme. Qu'est-ce que je suis en train de dire ? Ici et maintenant, on a l'opportunité extraordinaire qu'on a mentionnée ce matin. Si on ne la saisit pas, qu'est-ce qui va se passer ? On peut dire grosse catastrophe. De se rappeler de l'impermanence de cette opportunité qui nous est donnée, donc de la mort qu'on a là maintenant, va faire qu'on va prendre vraiment, saisir cette opportunité qui nous est donnée, entre guillemets, on pourrait dire presque que nous nous sommes donnés. Et la saisir, l'utiliser. Regardez comment, en fait, des fois, justement, avec un petit peu de recul, on se dit, mais c'est, on est dans une aberration la plus totale. Regardez comment il y a des gens qui, si, ne serait-ce, il manque juste un tout petit paramètre, s'ils avaient un intérêt pour se poser des questions sur ce qu'ils sont vraiment, sur l'essence de ce fonctionnement, ils utiliseraient leur vie complètement autrement. On regarde comment est-ce qu'ils utilisent leur vie. Regardez très souvent quel est l'idéal humain. L'argent, donc la richesse, la célébrité, le divertissement. Regardez tout simplement comment très souvent on va se dire, bon, ben voilà, j'ai des vacances, qu'est-ce que je vais faire ? Rien, j'ai pas de sous, c'est la dèche et tout. Ah tiens, il y a un centre bouddhiste, je vais y aller. Non, on va dire, tiens, je vais aller faire ça. Je vais, par exemple, aller me divertir en vacances, au ski, à la mer. Je vais aller découvrir des nouveaux pays, des nouvelles cultures, etc. Ok ? Ce mode de fonctionnement où on n'est pas conscient de la mort fait que on a une opportunité extraordinaire. Si justement on avait un tout petit peu ce questionnement, on pourrait vraiment répondre à la problématique dans sa plus grande profondeur. Et là, qu'est-ce qu'on va faire ? Des choses, en gros, inutiles. Parfois, juste, même bien au contraire, pas juste inutiles, mais on va aller donc, par exemple, se dire, cette vie, il faut que, en fait, je réussisse. Donc, je réussisse matériellement parlant. Il faut que je fasse de l'argent. Regardez comment il y a des gens qui sont pour l'argent, prêts à vraiment avoir des attitudes terribles par rapport à autrui. J'ai entendu des choses, quand on entend ça, on se dit, voilà, là, c'est vraiment grave. Ce degré d'avidité, ce degré de non-conscience de l'autre. Au niveau économique, il y a des gens qui se réjouiraient de, comment on dit, banqueroute, de la faillite de la Grèce. Qu'est-ce que ça veut dire, la faillite de la Grèce? Ça veut dire qu'il y a, là, en Grèce, il y a des milliers de personnes qui sont dans des souffrances terrible. Il y en a qui souhaitent que la situation s'aggrave encore plus pour pouvoir se faire un maximum d'argent dessus. Regardez donc comment, juste en poursuivant un bonheur utopique, en fait, on va créer des causes de souffrance terribles pour nous-mêmes en faisant souffrir autrui. Alors que, je vous dis, ces êtres qui ont ces attitudes-là, extérieurement, ils ont toutes les conditions pour se transformer. Il leur manque avant tout une condition intérieure. Regardez comment, sur ce potentiel, avec juste ce tout petit aspect qui manque, comment ils utilisent quelque chose qui pourrait être utilisé pour faire des merveilles, pour faire des atrocités. On prend un autre exemple. Regardez comment, à cause de l'attachement et de l'aversion, il y a des êtres qui vont tout simplement pousser leur pays à rentrer en conflit avec d'autres pays. Et qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, on prend un autre exemple, la Syrie. Regardez comment, de par un mode de fonctionnement de l'esprit, mais absurde, d'une minorité, il y a une majorité qui souffre encore et encore. Regardez comment l'absurdité du truc, comment à cause de raisons plus ou moins économiques, politiques, des personnes disent ah non faut pas vraiment aller dire quoi que ce soit, etc. Donc comment certains individus par rapport à une recherche de bonheur personnel entraînent des souffrances insoutenables par rapport à d'autres, alors qu'on a une opportunité extraordinaire si on avait un petit peu ce déclic intérieur en tant qu'être humain, et nous tous ici en tout cas, il y a eu un petit peu ce déclic humain intérieur. Regardez donc la chose extraordinaire qu'on peut faire avec. Vous voulez la gâcher, cette opportunité qui vous est donnée, oui ou non? Justement, de se rappeler de l'impermanence de cette situation va faire qu'on va aller l'utiliser. Donc quel genre de conscience de la mort? C'est pas dire oh, je vais mourir, j'ai peur. Non, c'est en fait j'ai une opportunité extraordinaire, mais cette opportunité, elle va pas du tout durer. En fait, par rapport à ce que j'ai été, ce que je vais être, etc., cette opportunité, elle est extrêmement éphémère. Donc il faut vraiment que je l'utilise. Okay? Donc quand on réfléchit d'un point de vue bouddhiste sur la mort, c'est pour générer cette attitude intérieure qui va nous donner une intention, une détermination, une aspiration extrêmement puissante, extrêmement forte, d'utiliser ce potentiel que nous avons, parce qu'on a toutes les opportunités extérieures et intérieures pour développer ce potentiel. Donc après, on avait déjà vu ensemble au cours d'un week-end que selon notre état psychologique, en fait, le bouddhisme a différents outils et qu'il faut apprendre à connaître tout simplement, apprendre à reconnaître ce qui se passe dans notre tête. Et si on est déprimé, si on n'a pas du tout la pêche, la méditation sur la mort, surtout si on n'est pas très encore au point avec, n'est pas forcément conseillée. Les méditations sur les souffrances ne sont pas forcément conseillées. Ça risquerait de, parce que tout simplement, de par notre attitude intérieure déjà, ça va nous renfoncer encore un peu plus. Puis c'est bon, ça va nous faire toucher le fond là. Donc c'est déjà par rapport aux différentes méditations, c'est bien voir quel est le but recherché par la méditation. Donc là, en résumé, dites-moi, quel est le but de la méditation sur la mort dans le bouddhisme? Donc la motivation, qu'est-ce que ça développe un peu, que ça veut dire? Donc la conscience de la mort, c'est de se dire ici et maintenant j'ai une opportunité extraordinaire. Cette opportunité, je vais l'utiliser. Et on va voir que dans la méditation, donc je vais l'utiliser maintenant, je vais l'utiliser d'une manière, avec une attitude intérieure complètement pure, avec une motivation complètement pure. C'est le seul état d'esprit qu'on essaie de générer par rapport à cette compréhension de la mort. Si on devient complètement déprimé et dire ah, c'est terrible, je vais mourir, etc., c'est absolument pas ce qu'on va essayer de générer. D'accord? Donc, petit retour, c'est si par exemple, on est complètement distrait, on est un petit peu euphorique, on fait un petit peu tout et n'importe quoi. Là, la méditation sur la mort est extrêmement intéressante, extrêmement importante pour recadrer la direction qu'on donne à notre vie. Par exemple, si on est plutôt mal, etc., là, la méditation sur les souffrances, la mort, etc., c'est pas si judicieux. Là, par contre, il faudra utiliser d'autres méditations comme justement voir le potentiel incroyable qu'on a, voir l'essence de ce qu'est l'esprit, qui est justement au-delà de toute notre problématique, voir qu'on a un potentiel d'aller complètement au-delà de notre problématique. D'accord? Et là, tout simplement, avec ces outils, on va commencer à prendre franchement le contrôle de notre esprit et en se faisant donner une direction extrêmement belle à notre vie. D'accord? Donc là, le premier point, quel est le type de conscience de la mort qu'on essaie de développer? C'est celui-là, il faut être très très clair sur ça. Donc après, si on regarde en fait, la méditation elle-même sur la mort, elle contient 3 points. Donc là déjà, en fait, par rapport à l'évaluation, il y a une question qui s'appelle « Quelles sont les, je crois, 3 racines, les 6 raisons et les 9 raisons, pardon, ouais. Qu'est-ce qu'a soupiré ? Tous ces nombres. Non mais vous allez voir, c'est super simple. Là, c'est vraiment la... Voilà, quelles sont les 3 racines, les 9 raisons et les 3 décisions qui constituent la méthode pour développer la conscience de la mort ? Donc là, je vous préviens tout de suite, c'est très simple. La question paraît compliquée, mais ça nous renvoie à ce qu'on voit ici et maintenant. Et la méditation sur la mort, elle a trois points principaux, ce qu'on appelle les trois racines. La mort, elle est certaine. Son moment est, lui, incertain. Et au moment de la mort, elle persiste. Gisèle, elle dit, on est tout seul. Il n'y a que, en fait, le dharma qui nous aide et on va développer pour bien comprendre ce que ça veut dire. Donc, première constatation, c'est la mort est certaine. Donc, par rapport à ce point où parfois ils disent inévitable, par rapport à ce point, en fait, il y a trois raisons qui sont données pour bien prendre conscience qu'effectivement, je nais, donc je vais mourir. Donc, la première raison, c'est de bien prendre conscience que la mort, elle est complètement inévitable. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense qu'on peut faire quelque chose pour éviter la mort ? Il n'y a pas un endroit où vous pouvez pas... Là, vous avez rien compris, alors il faudrait que vous lisiez plus les journaux, parce que le 21 décembre 2012, c'est la fin du monde, mais attention, il y a une région là, en française, dans l'Aude, hein ? Bugarache, eh bien alors vous le connaissez, alors la Bugarache, eh bien là, il n'y aura pas la fin du monde. Donc il y a un endroit où on pourrait aller, et puis tout va bien. Et en fait, donc là, ça nous paraît plus qu'enfantin comme raisonnement. Mais au plus profond de nous-mêmes, on a cette aspiration à la paix. On croit que les choses sont permanentes, etc. On a un espoir, etc. Cette vie, elle va finir, c'est sûr. Et il n'y a à aucun lieu, à rien qui pourra empêcher cette réalité. Tous les êtres qui sont nés vont mourir. Tous les êtres qui sont nés sont peut-être déjà morts ou ils vont mourir. Il n'y a jamais eu la moindre exception. D'accord ? Donc, c'est clair. On a pris naissance, on va mourir. Peut-être que on sera les premiers à quoi ? La première exception. Non, il n'y aura pas d'exception. Donc là, il y a vraiment une certitude par rapport à ça. Deuxième point pour encore plus nous convaincre, c'est que donc là je peux pas aller n'importe où que ce soit sur la lune, etc. Mais il y a, vous savez, au niveau de la science, on se dit ouais, peut-être à un moment il va y avoir des progrès qui font que patati. J'ai entendu dire qu'il y a même des milliardaires qui font congeler leur corps pour que au cas où, etc. Hein? Il y a beaucoup mieux maintenant. Il y a quoi? Les cellules souches, oui, pour renouveler indéfiniment, etc. Mais donc, d'un point de vue bouddhiste, même si on arrive à prolonger, par exemple, au niveau de la cosmologie bouddhiste, là, on dit qu'on est dans une période où la durée de vie est plus ou moins de 100 ans. Donc, elle va... mais dans la cosmologie bouddhiste, il parle de lieux où la durée de vie d'un être humain peut être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longue, plus courte, d'une durée de vie générale, la moyenne générale. Okay. Donc, peut-être qu'avec des progrès techniques, on pourrait rallonger la durée de vie. Et en Occident, on peut regarder que, justement, ben, en moyenne, la durée de vie, elle a plutôt augmenté. Par rapport à il y a 100 ans, les hommes et les femmes vivent beaucoup, beaucoup plus longtemps. Peut-être qu'avec le progrès, on pourra encore accroître la durée de vie moyenne des êtres. Mais, au bout d'un moment, ce qui est composé se désintègre. Regardez tout simplement la base sur laquelle on vit, la Terre. Donc, elle va disparaître un jour ou l'autre. Donc vous me direz, oui, mais on va faire des progrès tels qu'on pourra aller vivre autre part. Mais avant même la création de la Terre, il y a eu la création de notre système solaire. Avant même ça, il y a eu donc création de galaxies, la création, au bout du compte, de tout un univers. Il n'y avait rien. Okay. S'il n'y a même pas de support, où est-ce qu'on va vivre? Donc là, on est dans un vraiment domaine complètement utopique qui n'a rien à voir avec la réalité. Donc là, on se remet bien les pieds sur terre. Il n'y a aucun lieu qui pourra faire qu'on va éviter, au bout du compte, la mort. Si on réfléchit, le deuxième point, qu'est-ce qu'il nous dit? Ben, à partir du moment où on est, qu'est-ce qui se passe? Là, il y a un autre truc, des fois, si on se pose un peu dessus, ça peut être un peu flippant. Ben, chaque instant qui passe, chaque seconde, on change. Donc là, ça c'est cool, ça. Mais il y a une autre manière de le regarder. Chaque instant qui passe, chaque mouvement de l'aiguille nous rapproche de quoi ? Une seconde, une autre seconde. On est encore un peu plus près de notre mort. Troisième réflexion, toujours pour bien voir que notre mort est inévitable. On va mourir, qu'on s'y soit préparé ou pas. Là, il y a Philippe qui regarde par derrière Gisèle qui dit « on va être seul ». Donc en fait, on regarde qu'est-ce qu'on fait dans notre vie. Donc d'une moyenne manière générale, comment est-ce qu'on vit notre vie ? Ben, je vais vous dire, on dort. Donc souvent, il y a des gens qui dorment quoi ? 7, 8 heures par nuit ? Si on fait la moyenne, quand bébé, l'âge adulte, enfant, adulte, vieillard, en Occident, je pense, on peut dire 8 heures. Vous regardez, une journée c'est 24 heures. Si on dort 8 heures, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pendant un tiers de notre vie, qu'est-ce qu'on fait ? On dort. On utilise ce potentiel à se libérer complètement de la souffrance, à développer des qualités incroyables. On utilise cette opportunité donc extraordinaire et on en fait quoi ? On dort. D'accord ? On continue. Qu'est-ce qu'on fait d'autre ? On médite. Là, il essaie de rattraper le coup, Romain. Donc... Là, je me fais un peu l'avocat du diable parce que après, on pourra voir que quand on s'attelle vraiment un petit peu à prendre le taureau par les cornes, on va complètement changer un peu tout ça. Mais donc, quand on est trop petit, ben on dort, on fait caca et on mange. Hein ? Ensuite, on apprend les trucs tout conventionnels de notre vie humaine. On apprend, mais on n'apprend pas forcément le dharma. Ok ? On joue. On joue. Donc après, en Occident, on nous envoie à l'école. Donc on dort, on va à l'école. Pff, en France, on y va à l'école. Hein. Oh là là ! En plus, on nous envoie apprendre des langues. On sort de là, j'ai appris 7 ans l'allemand à l'école. Incapable de dire une phrase en allemand. Quelques mots, oui. Was ist das ? Juste une question. Attends. Donc, on passe, je sais pas, à l'école quand au lycée c'est quoi ? On a quoi ? 8h midi, 2h 5h, 7h par jour. On rentre à la maison, il faut bosser, etc. Au bout du compte, que dalle. Après, quand on devient adulte, on va travailler, etc. Donc, un beau jour, on va mourir. Qu'est-ce qu'on aura fait de notre vie ? Rien. Pour peu qu'on ait un boulot, en plus, on n'a pas vraiment d'éthique, ou par le boulot qu'on fait, on nous pousse à ne pas avoir d'éthique, vous imaginez. Donc, on va mourir, c'est clair et net. Chaque instant qui passe, on se rapproche de la mort. Et au bout du compte, notre vie, on l'aura utilisé à quoi faire ? Pas grand-chose. On a des vacances, quand même. On a des temps de pause. Qu'est-ce qu'on fait pendant ces temps de pause, généralement ? On se repose. On se distrait. On va regarder comment tu l'as appelé. Je veux un ami. Je veux l'aide d'un ami. Donc on regarde des stupidités à la télé. On regarde des stupidités sur Internet. On a l'impression d'être un peu plus au-dessus de la moyenne. Donc on se cultive. On va à l'opéra. On va voir des concerts. On va voir des expositions. On lit différentes œuvres littéraires de ces écrivains en vogue, etc. Et au bout du compte, on va voyager, visiter différentes cultures, apprendre différentes langues. Et au bout du compte, on meurt. Comment on meurt, Gisèle ? Tout seul. On meurt tout seul. Ben non, si t'as l'esprit d'ouverture, de découverte, tu vas visiter plein de monde, etc. Mais t'es gentil, les gens ils t'aiment bien quand même. Regardez comment généralement on vit notre vie. Regardez, on se dit, ah, là j'ai du temps libre. Donc... J'ai du temps libre, ben je vais à l'institut. Malheureusement, c'est pas si souvent le cas. Si on va se dire, tiens, qu'est-ce qu'on va faire pendant les vacances ? C'est quand les prochaines vacances ? On y est ? Vous êtes pas un bon exemple, hein ? vous êtes franchement pas un bon exemple. Mais trop souvent, en fait, on va faire des choses complètement inutiles, aberrantes. Parce que, d'un point de vue bouddhiste, donc, on va mourir. Qu'on s'y soit préparé ou pas. Quand on meurt, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on va aller? Ça dépend tout simplement de ce qu'on a fait dans cette vie. Ce qu'on a été. Quelles ont été les attitudes qu'on a générées? Quelles ont été les actions qu'on a fait? Et si on vit un petit peu sur le mode, tellement en poupe en ce moment, occidental, de juste profiter de la vie. Parce qu'en gros, c'est ça, hein. Profiter juste de la vie, avoir une certaine opulence matérielle, etc. Au bout du compte, quoi? Rien du tout. Au moment de la mort, complètement insignifiant. C'est un beau portrait que je suis en train de décrire là, non? Donc, en fait, de cette réflexion, la mort est inévitable. C'est clair et net, je peux rien faire, elle va arriver. En fait, chaque instant qui passe me rapproche encore et encore de la mort. La mort, elle va arriver que je m'y sois préparé ou pas. C'est-à-dire que j'ai créé les causes pour prendre une belle direction. Après, que j'ai créé ces causes ou que je ne les ai pas créées, la mort va arriver. Et le constat, en fait, c'est que trop souvent, est-ce que j'ai créé les causes pour aller vers quelque chose de bien? Non. Regardez même. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui essayent de méditer un petit peu? Donnez-moi de l'espoir. Levez la main. Levez la main. Ok. Gary, combien de temps par jour tu médites? 1h30, 2h. C'est pas mal, hein? Donc, j'ai pas fait le calcul pour 2h, mais 1h. 1h, si on regarde, qu'est-ce que c'est? C'est 4%, plus ou moins, d'une journée. Donc 2h, ce serait 8% du temps d'une journée. En gros, là, c'est, on crée un espace pour essayer justement de donner une bonne direction. Quel est le temps qu'on consacre à donner cette bonne direction, à créer les causes pour aller vers quelque chose de bien? 8% de notre temps. Donc, de cette compréhension, en fait, là, on va développer une attitude extrêmement puissante intérieure et se dire, je vais mourir, c'est clair et net, donc qu'est-ce que je fais? C'est foutu. Hein? Je vais aller boire. Non, moi j'ai le verre là, c'est bon. Ben, je vais pratiquer. Je vais pratiquer. Je m'éclate un maximum. Donc là, en fait, c'est je vais pratiquer. Donc en fait, la manière dont on présente la méditation, ce qu'il faut voir, c'est qu'elle est amenée pour créer un impact maximum en nous. D'accord? Donc là, on réfléchit bien comme ça. Donc vous pouvez dire en fait, ah oui, même dans mes meilleurs jours, je vais consacrer que tant de temps pour créer des causes pour aller vers quelque chose de beau après ma mort, etc. C'est pour donc vraiment se dire, ok, je vais pratiquer. Mais si on regarde en réalité, par exemple, là, je vais vous détendre un petit peu. Gary, t'as dit tu médites 2 heures maximum. Non mais top, 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 ok, 2 heures. Mais en réalité, après, cette méditation, elle va avoir un impact sur ce que tu es. Donc après, dans ta journée, tu vas avoir des attitudes qui vont découler de cette méditation. Donc très certainement des belles attitudes. Donc en d'autres termes, on va pouvoir dire tu pratiques le dharma. Tout à l'heure, je vous ai dit non, on peut dire il y a bon, un quart du temps qui va être consacré à travailler. Je sais pas, peut-être où, même peut-être un tiers. Si on fait en Suisse, ouais, un tiers. En France, non. Parce que même 40 heures par semaine, ça fait pas un tiers. Ça fait pas un tiers. En Suisse, ils travaillent beaucoup. Pour vous dire, la mentalité suisse, incroyable. Ils ont un système au niveau politique, ça c'est vraiment très chouette. J'espère que une fois en France, ça puisse être pareil. Ils ont très souvent des votations, ce qui équivaut un plus ou moins à un référendum. Mais c'est des votations très courantes. En fait, sur plein de sujets différents. Et il y a eu une votation, là, et on leur a demandé, bon, vous avez 4 semaines de congés payés. Est-ce que vous voulez rallonger un petit peu tout ça et avoir 6 semaines, je crois, qu'ils ont proposé? Mais à la majorité écrasante, ils ont dit non. Ça, on ne peut pas comprendre, nous, hein. C'est pas si simple. Mais ils aiment travailler quand même, hein. Ils aiment travailler, les Suisses. Ah, de l'autre côté, ils perdent des avantages. Bon, ils n'ont pas été gentils avec moi, ils ne m'ont pas fait savoir ça. Mais donc là, en fait, c'est par la méditation, même au niveau du travail, en fait. Très souvent, quand on a une certaine stabilité au niveau de la pratique, dans notre activité de la vie de tous les jours, en fait, on va pratiquer aussi. Par exemple, au niveau des pratiques bouddhistes, il y a différentes pratiques, visualisations, etc., pour, en gros, à chaque activité de la vie de tous les jours, transformer cette activité apparemment banale en quelque chose de constructif. Okay? Donc, un très grand pratiquant, au bout du compte, combien de pourcents par rapport à la durée d'une journée il utilise à la pratique? Tout, 100%. Okay? Même s'il mange, même s'il dort, etc., ce sera de la pratique. Donc là, c'est pour ça que je vous dis, cette méditation, elle est présentée pour créer un impact maximum en nous, pour créer une détermination extrêmement puissante en nous, de se dire, oui, je vais pratiquer le dharma. Je vais pratiquer les causes de mon bonheur futur, donc bonheur temporaire, en ayant une éthique de vie, pur vrai bonheur définitif, en pratiquant la sagesse, en m'appuyant sur la concentration. Je vais utiliser cette vie pour développer toutes les qualités possibles et inimaginables, pour développer des qualités pour pouvoir aider les autres. Donc pour créer vraiment cet impact maximum en nous, on met un petit peu toutes les chances de notre côté dans notre réflexion. On a un regard bien particulier, on pourra en avoir un petit peu un autre. Et au bout du compte, avec ce genre de méditation, on en arrive à pratiquer toute la journée, même dans des activités complètement normalement ordinaires. Deuxième point de la méditation. Premier point, on s'arrête là. On s'arrête là, et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va réfléchir au fait que notre mort est complètement inévitable. Pourquoi? Et là, c'est vous qui allez méditer, donc vous avez plutôt intérêt à savoir. Donc, tout simplement, lisez. Parce que la mort est certaine, et il n'y a rien, ni personne, qui peut donc l'empêcher. Que chaque instant qui passe nous rapproche de cette mort. Qu'on va mourir, qu'on s'y soit préparé ou pas. Qu'on ait pratiqué, développé les attitudes, les qualités intérieures ou pas. Donc, de cette réflexion, on développe une décision. Quelle est la décision qu'on prend? Pratiquer. Et quand on dit pratiquer, par exemple, pratiquer le dharma, laissez pas ça donc d'une manière extrêmement académique. Comprenez ce que ça veut dire. Pratiquer le dharma, il y a des gens qui sont pas bouddhistes et qui pratiquent énormément d'aspects du dharma. D'accord? Donc, à partir du moment où quelqu'un développe vraiment des attitudes bienveillantes à l'égard d'autrui, vraiment un profond respect de l'autre, il pratique le dharma. Okay? Donc là, pendant 10 minutes, on va donc dire, c'est certain que je vais mourir. Pourquoi? Pour ces 3 raisons, on développe la détermination de se dire, je vais utiliser donc cette opportunité extraordinaire qui m'est donnée, je vais pratiquer, je vais me transformer intérieurement. Ça marche? Allez, 10 minutes. Ok. Et donc, la conclusion de cette méditation, peut-être même, je pense, quelque chose de très beau, on peut sortir de cette méditation très joyeux. Tout simplement, pourquoi ? Parce que qu'est-ce qu'on se dit ? Donc ouais, c'est vrai, je vais mourir, mais en fait, j'ai cette opportunité extraordinaire, elle va pas durer, donc elle va passer, et donc je vais l'utiliser pour développer l'éthique. Je vais l'utiliser pour développer la sagesse et la concentration. Je vais l'utiliser pour développer l'esprit d'éveil. Je vais l'utiliser pour m'entraîner dans les six perfections. Je vais l'utiliser donc pour développer la générosité, l'éthique, la patience, l'effort joyeux, la concentration, la sagesse. Je vais la développer pour m'entraîner dans le stade d'accomplissement, de génération et d'accomplissement du tantra. Qu'est-ce que je suis en train de dire là ? Retournez la phrase d'une manière extrêmement simple. Je vais créer les causes du bonheur, un bonheur temporaire, puis un bonheur ultime pour moi-même. Je vais créer les causes pour avoir toutes les qualités pour pouvoir offrir, guider, montrer l'exemple, comment faire pour obtenir ce bonheur. Donc, en réfléchissant à la mort, on arrive à développer une intention de créer les causes de tout ce bonheur. Donc, on va absolument pas être déprimé par cette réflexion. Bien au contraire. Okay. Ça va nous donner énormément de courage et ça va orienter notre vie vraiment dans une très très belle direction au lieu de la gâcher et regarder comment l'être humain peut être débile dans une recherche du bonheur, mais on va faire des fusées pour aller explorer ceci, cela, etc. Alors qu'en fait, où est la solution ? À l'intérieur. On est en train de chercher les réponses complètement à l'opposé de là où elle se trouve. Si on était capable de mettre un dixième peut-être de tous les efforts que l'humanité fournit pour obtenir un bonheur temporaire, on obtiendrait le bonheur ultime, parfait, extrêmement rapidement. Donc demain, qu'est-ce qu'on va voir ? Ben, on va voir que c'est sûr, on va mourir. Et quand est-ce qu'on va mourir ? Alors ça, on n'en sait absolument rien. Et peut-être que demain, on va voir ça, parce que peut-être que demain, pour nous, ce sera terminé, tout simplement. Donc de là, on va saisir l'opportunité qui nous est donnée, et on va la saisir comme ça, maintenant, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que elle va durer, combien de temps elle va durer, quand est-ce qu'elle va s'arrêter. Donc juste pour conclure aujourd'hui, les prières de Dedicas. À la page, allez, je me fais un petit plaisir. 90. Qu'en est-il des gens qui se suicident ? On verra ça demain ? D'accord ? Vous me reposez la question demain ? Donc, à la page 90, la première prière de dédicace. Je dédie toutes les vertus que j'ai accumulées pour le bien des enseignements et des êtres, et surtout afin que brillent à jamais les enseignements essentiels du pur et parfait Losanjapa. Et au milieu de la page 91, grâce au mérite accumulé par ces actions vertueuses, puissé-je rapidement atteindre l'état d'un maître Bouddha et conduire tous les êtres vivants sans exception à cet état d'éveil. Puisse le joyau suprême de la Bodhicitta naître là où il n'est pas né, ne pas dégénérer là où il est déjà né, mais s'accroître de plus en plus. La prière de longue vie pour sa sainteté Dalai Lama. Dans ce paradis entouré de montagnes enneigées, vous êtes la source de tout bienfait, de tout bonheur. Ô tout-puissant Chenrezig Tenzin Gyatso, veuillez demeurer jusqu'à la fin du samsara. Vous qui, maintenant l'attitude du conquérant et soutenant, préservant et propageant l'enseignement de Lama Tsongkhapa, œuvrez comme le serviteur imperturbable de toutes choses, vous qui êtes accompli par la force de vos excellentes aspirations qui rendent hommage aux trois joyaux, veuillez demeurer longtemps comme mon sauveur et celui de vos autres disciples. Et toute l'énergie positive qu'on aurait pu accumuler dans le passé, aujourd'hui, celle qu'on accumulera plus tard, puisse-t-elle servir pour que tous les êtres obtiennent l'état parfait, pur bonheur de Bouddha, que donc non seulement ils obtiennent ce pur bonheur, mais que toutes les techniques qui nous permettent d'obtenir ce bonheur se répandent, fleurissent, et que les êtres complètement purs qui enseignent ces techniques demeure parmi nous et nous guide à ce pur bonheur, à cet éveil. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne soirée et peut-être à demain.